Merci beaucoup à l'équipe de louanges. Vous nous faites passer vraiment des bons temps dans la présence de notre Sauveur. Quel beau chant ce matin. Et je pense que ça va tellement bien avec le texte, même si on n'a pas essayé de coordonner les deux. Le Seigneur a dirigé pour que ça puisse se marier bien ensemble. C'est dur de manquer la cible aussi quand on la pointe vers Jésus, hein? On sait qu'on vise toujours dans la bonne direction. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ce qu'on veut. On veut vraiment qu'on puisse, nous tous, pointer nos regards vers Jésus, celui qui est la seule source, la seule vraie source, la seule vraie source satisfaisante pour nos cœurs. Vous savez, en étudiant la vie de Jésus à travers l'Évangile de Marc, ce qui me fascine le plus à chaque fois, c'est de voir à quel point il est unique. Partout où il va, il laisse sa trace. Une trace encore plus visible qu'un tsunami. Il transforme tout sur son passage. Il a un impact fulgurant sur les gens qu'il rencontre. Et ce que j'aime, c'est qu'il change le statu quo. Il provoque une réflexion. Il ne laisse personne indifférent vis-à-vis lui, même pas les démons. Ce que l'Évangile de Marc nous montre dans le texte qu'on va regarder ce matin et même dans les textes précédents qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est que Jésus est le seul maître à bord. Il est le roi et il dirige. Il est spécial. Au chapitre précédent, au chapitre 2, c'est-à-dire versets 1 à 22, les versets précédents de ce qu'on va voir ce matin, on voit que Jésus, il est le maître de la grâce. Il a le pouvoir divin de pardonner aux hommes leurs péchés. Seul Dieu peut faire cela. Il est maître de son réseau social. C'est lui qui fait le choix d'inviter en priorité sur sa page Facebook les pécheurs les plus notoires. Ah, qu'il les aime! Jésus, il aime les pécheurs notoires. Ça veut dire les pécheurs de très grande réputation. Les poqués de ce monde. Il veut tous les avoir sur son Facebook. Il est aussi le maître du changement. Il inaugure une nouvelle ère et il nous invite à la célébration. Et donc, oui, on peut remettre le jeûne à plus tard. C'est ce que Jésus dit au chapitre 2, versets 1 à 22. Maintenant, du chapitre 2, verset 23, jusqu'au chapitre 3, verset 21, qui est la portion qu'on va regarder ce matin, qui est quand même une très bonne portion. On peut voir encore une fois que la seigneurie de Jésus s'étend sur tous les domaines de la vie. Alors, ce qu'on va voir, c'est que il est le seul maître à bord en ce qui concerne le sabbat. Il est le seul maître à bord en ce qui concerne le monde physique et spirituel. Il est le seul maître à bord en ce qui concerne la prédestination, c'est-à-dire le choix de ceux qui vont le suivre, lui appartenir, et ici, dans la sélection de les 12 qui étaient pour l'accompagner pour être ses apôtres. C'est lui qui les a choisis. Il est le seul maître à bord en ce qui concerne sa propre existence. Imaginez-vous, même sa mère ne peut pas lui dire quoi faire. Ça, c'est d'être vraiment maître à bord. Hein? Je vais lire les versets au chapitre 2, verset 23, jusqu'au chapitre 3, verset 6. On va surtout se concentrer sur cette portion des Écritures ce matin. Et avant de lire, on va justement venir dans un court temps de prière pour remettre cela entre ses mains. Seigneur Jésus, merci d'être le seul maître à bord. Merci d'être le roi. Merci d'être celui qui dirige, celui qui a l'autorité pour diriger, mais une autorité qui est là pour nous faire du bien et non pas pour nous écraser. Au contraire, toi, Seigneur Jésus, tu es venu pour nous libérer de notre captivité et pour nous diriger là où la vraie vie existe, là où il y a la paix, là où on peut trouver le pardon, là où on peut trouver tout à coup le calme à l'intérieur, là tout à coup où nos cœurs peuvent ressentir ton amour et ta grâce, ta présence, comme si tu étais là, comme si on pouvait entendre ta voix tellement que tu es près de nous et que tu prends soin de nous et que tu nous aimes et que tu fais de nous ce que est quelque chose de tout à fait unique et spécial. Et Seigneur, toi seul es capable d'interagir avec chacun de nous en même temps et de nous faire du bien à chacun de nous, parce que tu es le maître, parce que tu es le roi. Merci Seigneur Jésus ce matin d'être présent avec nous ici. Ô Seigneur, toi, tu connais tous ceux qui sont ici ce matin et tu sais comment a été leur semaine. Tu sais les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Ô Seigneur, que ton esprit puisse circuler librement ce matin parmi nous, parler au cœur de chacun, interagir à travers ce que ta parole dit sur toi et appliquer ta parole au cœur des uns et des autres en fonction des besoins de chacun. Ô Seigneur, sois le bienvenu parmi nous ce matin. Nous t'invitons, tu es le roi, Seigneur. Et nous voulons te suivre. Nous voulons t'honorer. C'est le désir de nos cœurs. Mais Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Car sans toi, Seigneur Jésus, on ne peut pas rien faire. Mais si toi, tu viens vers nous, si toi, tu mets ta main sur nous, si toi, tu touches nos cœurs, eh bien, toi seul, Seigneur, es capable de nous emmener à aller à ta suite et à te suivre, à t'aimer, à t'adorer, à t'honorer comme tu en es digne. Viens, Seigneur, nous t'invitons ce matin. Que ta parole édifie nos cœurs pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, Marc chapitre 2, verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Vois, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat? » Ha! Là, hein? Qu'est-ce que Jésus va bien répondre? Quelle bonne question qu'on lui pose là. Hein? Là, on vient de prendre ses disciples à faire quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Dites-les. Inacceptable. Ah, vous n'êtes pas assez convaincus. Inacceptable. Ah, c'est pas fort. Pour moi, vous ne croyez pas ça, hein? C'est inacceptable. Ça veut dire que c'est pas correct. Hein, un bon Québécois, là, c'est que c'est pas correct. Qu'est-ce qu'il va répondre? Eh bien, verset 25. Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David? » David, qui était le roi d'Israël, un des meilleurs rois, et d'où Dieu avait promis que de sa lignée viendrait le Messie. « Lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu, qui est le temple, du temps du souverain sacrificateur, Abiathar, mangea les pains de proposition. Ça, c'était des pains qui étaient consacrés pour le sacrifice, pour tout ce qui était l'ordre du temple et dédié à l'Éternel. Qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ses gens. Comment ça se fait que David a pu faire cela? Parce que c'est... Allez-y, mieux que ça, là. Ah, ça s'en vient, c'est bon. Autrement dit, non seulement mes disciples ont fait de quoi de... Mais David et ses gens ont fait de quoi aussi de... Imaginez-vous, là. Puis ici, je pense que Jésus est en train de dire, c'est encore pire. Pire que de prendre des épis, puis de les froisser dans sa main, puis en manger quelques grains. C'est pire encore ce que David a fait avec ses gens, parce qu'il a mangé des pains qui étaient consacrés à l'Éternel et que seulement les sacrificateurs pouvaient manger. Comprenez-vous un peu là, comment Jésus il dit... moi, j'aime assez comment ce qu'il répond, Jésus. C'est incroyable. Moi, c'est fantastique. Puis il leur dit... Ah là là, pas fini là. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme... Pour le sabbat. Prenez-vous l'importance de qu'est-ce qu'il est en train de dire? Autrement dit, le sabbat, quand Dieu a pensé au sabbat, son intention originelle ou originale, les deux probablement, c'était un cadeau. C'est ça qu'il est en train de dire. Le sabbat est un cadeau que j'ai fait à l'homme. Et non pas l'inverse. J'ai créé le sabbat et j'ai dit, OK, l'homme maintenant, il va être un cadeau au sabbat. Comprenez? Non. Jésus, il remet les choses à sa place. Et j'aime ça, la façon que Jésus répond. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il en rajoute encore un peu plus. Parce que là, il est en train de dire quelque chose d'encore plus pesant. Non seulement il ramène l'intention de Dieu en créant le sabbat, qui fait partie des 10 commandements, mais en plus, là, il vient établir un autre principe qui est encore supérieur.
Qui est le suivant?
Moi, qui suis ici, le Fils de l'homme, Jésus, eh bien, je suis maître du sabbat. Imaginez-vous, ça, c'est une horreur pour eux autres, là. Que c'était maître du sabbat? Qui est maître du sabbat? C'est Dieu! Comment il pouvait dire une telle chose? Alors, Jésus, naturellement, il est en train de les enseigner par rapport à qui il est. Alors là, Jésus, il aime ça, non seulement dire les choses, mais il aime ça aussi les prouver hors de tout doute. Hein? Comme il a fait précédemment. Quand il a voulu montrer, c'est quoi qui est plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, quoique dans la culture juive, là, c'était quelque chose que tu pouvais pas dire, hein? Ça, c'était vraiment, là, gros, là. Énorme. Eux autres, là, c'est comme, c'est blanc et noir, puis là, tu peux pas dire à quelqu'un, oui, tes péchés sont pardonnés. Comment peux-tu avoir... C'est un peu comme si moi, je disais à quelqu'un qui a commis un meurtre, ben, t'es libre, vas-y, c'est correct, tu peux t'en aller. Comment est-ce que je peux faire ça, moi? J'ai pas l'autorité de faire ça, vous comprenez? On ne peut pas dire à quelqu'un qui a commis un crime, c'est correct, tu peux t'en aller, va-t'en. Non, c'est comme si tu n'avais jamais rien fait. Alors, c'est gros. Là, Jésus, ici, encore là, il vient établir son principe, mais il va le démontrer en disant, et là, je suis rendu au chapitre 3, verset 1, « Jésus entra de nouveau dans la synagogue, et il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus, en parlant des pharisiens, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. » Afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu, devant tous ces pharisiens et ceux qui étaient aussi présents, qui étaient témoins. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Une bonne question, hein, qu'il pose aux pharisiens. Et les pharisiens, eux autres, ils ont dit, wow, ça, on aime ça, nous autres, des bonnes questions comme ça. Hein? Et là, ils ont réfléchi. Ça arrive des fois que les pharisiens réfléchissent. Là, ils ont réfléchi, puis ça dit quoi? Gardèrent le silence. Pourquoi vous pensez qu'ils ont gardé le silence? Hein? Ben, jusqu'à date, là, si on marquerait des points là entre ce qu'ils ont dit, essayer de prendre Jésus en défaut, puis comment Jésus répond, ils ont dit, ouais, attends un petit peu, là, des fois, on a répondu trop vite, puis on n'a peut-être pas assez réfléchi, puis là, Jésus, il nous en ramène des bonnes. Alors là, ils ont décidé, on dit, OK, cette fois-ci, on ne dit rien, on garde le silence. Et là, ça dit au verset 5, « Alors, promenant ses regards sur eux, » et si c'est eux, c'est qui ce « eux » ? Les pharisiens. Et ça, c'est intéressant, là. Ici, il a promené ses regards sur eux. Et savez-vous que ce que moi, je crois personnellement, ce qui s'est passé ici? Personnellement, je crois ceci. Je sais que ce n'est pas écrit dans Marc. Ce qui est écrit, c'est qu'il a promené ses regards sur eux. Mais moi, personnellement, je vais vous dire qu'est-ce que je crois là-dessus. Moi, je crois qu'il les a regardés droit dans les yeux, chacun. Et ils ont vu dans les yeux de Jésus ce qui est dit ici. Et c'est pour ça que Marc le dit. Ils ont vu sa colère. Ça n'arrive pas souvent que Jésus se met en colère. Mais ici, il a vu sa colère. Pourquoi est-ce qu'il y avait de la colère dans le regard de Jésus? Et il y avait non seulement de la colère, mais ça dit, et en même temps, il était navré. Il était attristé. Attristé de l'endurcissement de leur cœur. Wow! Il y a quelque chose ici. Et il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et l'homme, lui, il l'a étendu. Et sa main devint saine. Bang! Le jour du sabbat. Pourtant, c'est...
inacceptable.
C'est quoi?
Inacceptable.
C'est inacceptable de guérir le jour du sabbat, selon les pharisiens. Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt. Donc, ils ont formé un comité. C'est la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. Eux autres, former des comités. Ils se sont consultés entre eux avec les Hérodiens. Aha! On va emmener d'autres avec nous sur les moyens de le faire périr. À ce moment-là, ils ont dit, là, t'es allé trop loin. Là, t'es allé trop loin. Puis là, à partir de maintenant... Jésus va avoir des ennemis qui vont chercher seulement comment est-ce qu'on va arriver à le faire disparaître. Parce que là, il va trop loin. Là, il est allé trop loin. Non seulement parce qu'il a dit, non seulement parce qu'il a fait, mais en plus, la manière qu'il nous a traités, nous, les leaders du peuple. Et ça, ils ont dit, c'est... c'est quoi?
Inacceptable.
Hein? Avez-vous ça dans votre langage, ce mot-là? Il y a des choses qu'on fait, puis on dit c'est inacceptable. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le sabbat? Pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe ici, c'est important de premièrement comprendre ce que c'est que le sabbat. Jésus nous en donne quand même pas mal dans ses versets. Alors, le sabbat veut dire, le mot lui-même veut dire un temps de repos. Vous comprenez pourquoi que c'était un cadeau de Dieu, hein, pour l'homme? Parce qu'il voulait donner un temps de repos à l'homme pour qu'il dise, je te donne la permission de prendre cette journée pour te reposer. Et naturellement, en même temps, dans ce repos-là, c'était non seulement un repos physique, mais c'était aussi un repos pour l'âme. Hein, pour que l'homme cherche Dieu pendant ce jour de repos. C'est le but. Le but est simplement bon. C'est pour être une bonne chose, pour aider l'homme, la femme, la famille, la nation. C'était une bonne chose, un cadeau de Dieu. Alors, le sabbat arrive le septième jour de la semaine. Ce septième jour-là, c'est le... Il y en a qui pensent que c'est dimanche. Non, dimanche, c'est le premier jour. C'est le samedi. Voilà. C'est un temps particulier de repos et de commémoration pour le peuple juif. L'observation de ce jour fait partie intégrale des dix commandements que Dieu a donnés à Moïse suite à la sortie d'Égypte de son peuple. Dans Exode 20, 8 à 11, vous allez voir ces dix commandements-là que Dieu a donnés. Le jour du repos, le sabbat, faisait partie des dix commandements. Ce jour appartenait à l'Éternel et devait être sanctifié, ce qui veut dire mis à part, consacré par le peuple pour le repos et pour le culte de l'Éternel. Donc, aucun travail ne devait être effectué ce jour-là. Et aucun travail, ça voulait dire un travail pour faire un profit, pour gagner sa vie, faire des affaires. Hein? Autrement dit, Dieu disait, je ne veux pas que vous fassiez des affaires, que vous soyez préoccupés par bargainer, puis vendre vos produits, puis ainsi de suite, pour justement apporter des revenus et ainsi, dans votre famille, ainsi de suite. Okay? L'Écriture enseigne que l'origine du sabbat remonte au temps de la création, où Dieu s'est reposé de toute son œuvre de création le septième jour. On voit ça dans Genèse 2, verset 3. Alors, c'est un jour officiel de repos qui devait être célébré en l'honneur du septième jour où Dieu se reposa d'avoir créé le monde. Alors, c'est dans cette intention-là que Dieu remontait jusqu'à la création. C'est comme si Dieu lui-même, en tant que créateur, disait aux hommes, « Je vous donne la permission de prendre des vacances, de vous reposer de votre labeur et de célébrer mon nom en vous rappelant mon œuvre de création. » Vous voyez le lien entre ce que lui a fait et le fait qu'il s'est reposé le septième jour et le fait que maintenant il veut que nous aussi on fasse la même chose. Alors, son intention derrière un tel jour étant le bien commun de son peuple au niveau physique et spirituel. C'est d'ailleurs ce que Jésus tient à rappeler aux pharisiens qui critiquent ses disciples pour avoir mangé des épis de blé. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alors, Jésus ici va corriger le tir des pharisiens en leur rappelant que l'intention de Dieu en instituant le sabbat était le bien commun de son peuple. Non seulement Dieu leur donnait la permission de mettre à part cette septième journée de la semaine, mais il l'a rendu obligatoire dans la charte des droits et libertés du peuple juif, qui s'appelle le Schéma Israël, qu'on voit dans Deutéronome 6. Dieu veut ainsi protéger son peuple en enchâssant le sabbat dans les dix commandements. Ce sujet n'est pas ouvert à la discussion ni à la négociation. Dieu disait, c'est pas à chacun à décider. Ici, ça fait partie de ce que j'ai pour mon peuple, parce que ça, c'est un cadeau pour son repos et que mon peuple puisse aussi chercher ma face et trouver du repos spirituel. Hein, c'est quoi le problème des pharisiens? Les pharisiens dérapèrent de cette intention originelle de Dieu en ajoutant une multitude de restrictions supplémentaires, arbitraire et inacceptable. Vous comprenez? C'était insupportable. Là, c'était rendu que le sabbat était vraiment en train de prendre l'homme en otage, ce qui n'était pas l'intention de Dieu. Maintenant, c'est sûr que, d'un point de vue humain, les pharisiens avaient probablement des bonnes intentions. Hein? À un moment donné, ils se sont réunis, puis là, ils ont commencé à dire, « OK, pour s'assurer que le peuple de Dieu va vraiment suivre le sabbat. » Alors là, ils ont commencé à essayer d'avoir des bonnes idées de qu'est-ce que ça voulait dire que d'honorer le sabbat. Et là, ils en ont mis, ce qui faisait que finalement, il y avait tellement de règles et de restrictions supplémentaires que c'était rendu épouvantable et un joug. Vous savez, la tradition rabbinique avait interprété l'acte de froisser des épis dans la main, comme on voit ici, comme étant équivalent au travail de battage des ouvriers dans les champs au temps de la moisson, comme si c'était faire la même chose. Et par conséquent, pour eux, il fallait l'interdire. Il est vrai que la loi de Moïse, dans Exode 34-21, interdisait le travail des récoltes en vue d'un profit le jour du sabbat. Mais il est clair, selon le contexte, que ce n'est pas ce que faisaient les disciples de Jésus en ce moment-là. C'était pour leurs propres besoins. La loi permettait de ramasser quelques poignées de grains dans le champ d'un cultivateur juif pour répondre à un besoin immédiat de nourriture. On le voit dans Deutéronome 23-25. Donc, ce n'était pas interdit, mais eux l'interdisaient. Vous voyez qu'ils ont dérapé? Donc, un fermier ne pouvait pas récolter son champ pour en faire du profit, mais les nécessiteux ou les gens ayant un besoin immédiat pouvaient ramasser suffisamment de grains pour se nourrir le jour du sabbat. Dieu était en accord avec cela. En fait, il y avait au moins trois clauses ou exceptions pouvant s'appliquer le jour du sabbat afin d'éviter les abus et de respecter justement l'intention originelle de Dieu pour ce jour de repos. Les trois étaient celles-ci. J'en ai nommé une, les besoins immédiats des gens. On peut voir Marc 2, 25-26 et Deutéronome 23-25. La deuxième chose, c'était le service rendu à Dieu par les sacrificateurs qui devaient s'occuper du culte d'adoration dans le temple. Donc, c'était compris que les sacrificateurs, naturellement, le jour du sabbat, y travaillaient. Et là, on le voit dans Matthieu 12, 5. Et il y avait une autre exception, ce qui était les actes de compassion envers les nécessiteux, envers les malades, envers les captifs. Marc 3, 1 à 6 et Matthieu 12, 7, Jésus montre ce principe-là. Maintenant, pourquoi Jésus est à la fois en colère et navré devant la position des pharisiens à l'égard du sabbat? La première chose, c'est que Jésus connaît l'étendue des dommages que peut causer le légalisme ou le fondamentalisme ou encore l'hyperconservatisme religieux sur les gens. Jésus, il sait très bien que lorsqu'on est en train d'ajouter des choses à la parole de Dieu, et que connaître Dieu, être approuvé de Dieu, revient à observer une multitude de règles, et que par ces règles, j'en arrive à croire que Dieu va être content avec moi, que Dieu ne sera pas en colère contre moi. Il sait très bien que ça va venir écraser les gens, ce qui est la base de la religion. Et ce qui est horrible, c'est de voir comment ce que Jésus a voulu accomplir en disant « c'est par la grâce et non par les œuvres qu'on va pouvoir s'approcher de Dieu », que tout à coup, même comme dans Galates, un groupe de gens qui étaient ici des Juifs en grande majorité sont revenus à l'idée que c'est par les œuvres. Et Paul est tout scandalisé de voir que parmi ces premiers chrétiens qui ont compris la grâce, comment se fait que vous revenez à des choses qui sont désuètes, comme si c'est ces choses-là qui finalement vont vous soutenir maintenant. Vous avez commencé par la foi. Pourquoi est-ce que vous voulez continuer ou terminer par les œuvres? C'est insensé. Ça ne fait pas de sens. Vous savez, la semaine passée, on était au Colorado pour une conférence sur avec le ministère Cœur à cœur pour la préparation au mariage. Et pendant la conférence, il y avait une jeune épouse qui donnait son témoignage sur les bénéfices que, justement, la préparation au mariage a apporté dans sa vie et dans son couple. Ils étaient récemment mariés depuis, je crois, un an ou quelque chose comme ça. Et elle vient justement d'un milieu évangélique qui était hyper conservateur. Et elle a dit dans son témoignage quelque chose qui m'a bouleversé et qui montrait le ravage que l'hyperconservatisme évangélique peut faire dans la vie des gens. Et elle a dit, la place pour moi où j'avais le plus de difficultés, où je me sentais le plus condamné, où j'avais l'impression d'être une pas bonne chrétienne et que Dieu était vraiment fâché contre moi. C'est à chaque fois qu'on célébrait la table du Seigneur. Imaginez-vous, comment est-ce qu'une personne peut penser et venir à la table du Seigneur avec cet état d'âme où je ne suis pas digne de venir à la table du Seigneur, ma vie n'est pas digne de se présenter devant Dieu, de participer à la table. Oui, il y a une mise en garde, justement, pour qu'on doit tenir compte lorsqu'on vient à la table du Seigneur. Et là, elle expliquait ceci. Et là, j'ai vu ce que les pharisiens faisaient, justement, que Jésus était si en colère contre eux autres. Parce que dans son église, savez-vous ce qu'il faisait? C'est qu'à mettons, comme là, ce matin, si on avait eu la table du Seigneur, on va l'avoir la semaine prochaine, OK? La table du Seigneur. Alors, admettons que c'est sûr qu'eux étaient une petite église, mais savez-vous ce qu'ils faisaient? C'est qu'avant de célébrer la table du Seigneur, c'est que les anciens rencontraient chaque personne dans l'église. Et là, passaient une entrevue avec chaque personne en posant des questions sur comment va ta vie avec Dieu? Comment va ton culte personnel? Est-ce que tu es en paix dans ta relation entre toi et Dieu, entre toi et tes frères dans l'église? As-tu quelque chose sur ton cœur contre quelqu'un dans l'église? Et là, il passait comme ça à travers. Elle dit, moi, je me sentais toujours coupable parce que j'avais toujours l'impression que mon cœur n'était pas droit devant Dieu. Alors, pour elle, de venir à la table du Seigneur, vous savez, pour elle, c'était dévastateur parce qu'elle se voyait tout le temps, je ne suis pas digne de venir à la table du Seigneur. Je ne suis pas digne de venir à la table du Seigneur. Savez-vous ce que Jésus a fait pour guérir son cœur? Ah, ça, j'ai trouvé ça fantastique. Et je pense que c'est en raison pourquoi Jésus est en colère contre ces pharisiens, puis en même temps navré de leur endurcissement de cœur. Ben, Jésus est comme ça, hein? Il voit le problème, mais il a de la compassion aussi. Savez-vous ce qui s'est passé dans son cas? Elle a compté ça. Moi, ça m'a vraiment... Elle a dit ceci. Quand j'ai demandé à Jésus, « Jésus, est-ce que tu vois qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Tu vois comment que je me sens? Toujours coupable, toujours blâmé, toujours sous un poids, un fardeau sur mes épaules. Je ne suis jamais à la hauteur. Je ne suis jamais capable de vivre la vie que tu voudrais que je vive. Il y a tellement de choses à faire, puis j'arrive pas à faire tout ce qu'il y a à faire. Puis je sais, je suis pas correct. Puis je dois pas t'aimer si j'arrive pas à faire toutes ces choses-là. Puis... je me sens pas en paix avec toi, puis ainsi de suite. Jésus, est-ce que tu vois tout ce qui se passe dans mon cœur? Et puis là, elle a demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour enlever ce fardeau-là qui est sur mon cœur? Que mon cœur se sent condamné, jugé. Savez-vous ce qu'elle a vu, que Jésus lui a donné? C'est qu'elle était en train de prier, puis elle a vu... Elle s'est vue elle-même venir au devant de l'église, comme là où il y a la table du Seigneur. Et là, elle était complètement face contre terre, en train de pleurer, parce qu'elle était indigne, indigne de venir auprès de lui. Elle a dit, Jésus, j'ai vu Jésus courir dans l'allée, venir vers moi, me prendre dans ses bras, puis dire, c'est fini. Je te condamne pas. Je suis mort à la croix pour toi. Je suis venu te libérer. Elle dit, pour moi, ça a été un fardeau qui est tombé sur ses épaules. Et là, elle a goûté à la grâce qui est en Jésus. Combien d'entre vous ce matin sont ici et vivent un tel fardeau? Parce que pour vous, la vie chrétienne, c'est une série de règles à suivre et que vous n'y arrivez pas. Vous avez l'impression que Dieu est en colère contre vous. Mais ce que Jésus veut, c'est qu'on puisse venir à lui, qu'on puisse le rencontrer. Il veut enlever ses fardeaux sur nos cœurs. Il veut qu'on puisse goûter à sa grâce, à son amour. La deuxième raison que je pense pourquoi Jésus est en colère puis navré devant la position des pharisiens, c'est que ceux-là même qui accusaient ses disciples de ne pas obéir à la loi de Dieu étaient en train de faire pire que ce qu'ils reprochaient à ses disciples. Imaginez-vous, c'était eux les vrais hors-la-loi et eux plaçaient plutôt des fardeaux pesants. Même Jésus le dit à un moment donné. Vous placez des fardeaux pesants que vous n'êtes même pas capable de supporter vous autres-mêmes. Ils péchaient contre Dieu en imposant au peuple des règles qui ne venaient pas de Dieu. Imaginez-vous. Autrement dit, ils annulaient la parole de Dieu. Ils annulaient ici l'intention que Dieu avait en donnant le sabbat. Et là, maintenant, ils plaçaient ces fardeaux-là. Au lieu d'être un jour de repos, c'était un jour de culpabilité. C'était un jour lourd à supporter et difficile pour la majorité du peuple à cause de leur tradition, à cause de ces règles supplémentaires qu'ils imposaient parce qu'ils les avaient inventées. Ce qui est encore plus grave que de prendre un épi, de le froisser dans ses mains et de manger. Marc dit que l'attitude de Jésus à leur égard était mitigée entre l'indignation devant leur injustice à l'égard des autres et l'affliction devant leur endurcissement de cœur face à la parole de Dieu. Ils n'avaient aucune compassion pour les autres, mais seulement une attitude rebelle, hautaine, de propre juste et dégoûtante. Jésus est indigné et affligé par leur attitude répréhensible et leur cœur endurci. Maintenant, Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a non seulement voulu rectifier le tir de ces pharisiens qui manquaient lamentablement la cible que Dieu avait fixée, et il voulait aussi les remettre à leur place devant tout le monde. Mais il est allé même un peu plus loin. Il a établi qu'il était le seul maître à bord. C'est-à-dire que lui, il a une pleine autorité sur le sabbat. Et en tant que tel, il peut dicter les règles et même les changer sur le sabbat en tant que tel parce qu'il est le maître du sabbat. Il peut le faire à sa guise, quand il veut, où il veut et comme il veut. Il est le roi. C'est lui qui en a l'autorité. Et c'est ce qu'il dit, car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et là, c'est là qu'il a fait la guérison. Maintenant, quelle attitude, nous, est-ce qu'on devrait avoir vis-à-vis le sabbat? Alors, il y a encore des gens aujourd'hui qui veulent continuer à respecter le sabbat. Il y en a qui le font, ils sont des juifs chrétiens, et ils célèbrent le samedi leur culte d'adoration. Eux le font avec l'intention d'être comme un pont vis-à-vis les Juifs qui sont encore en train d'observer les 10 commandements de Moïse. Donc, ils célèbrent le samedi, non pas par conviction profonde que c'est le jour qu'on doit encore honorer aujourd'hui, donc en mettant la loi en pratique, mais ils le font plutôt comme un pas ou une façon de rejoindre leurs contemporains juifs qui ne connaissent pas Jésus comme étant le Messie. Et là, ils veulent les rendre à l'aise en les invitant le samedi pour célébrer leur façon, le Messie qu'ils ont découvert en Jésus. Alors ça, c'est une chose différente. Mais il y en a qui le font encore par conviction, pensant que le samedi, on doit respecter le sabbat, même si on est chrétien. Maintenant, j'ai un extrait ici du livre de Don Carson qui s'appelle « From Sabbath to Lord's Day ». Alors, du sabbat au jour du Seigneur, autrement dit, du samedi au dimanche, on pourrait appeler ça comme ça, alors qui a été fait en 1982. Il dit ceci, j'aimerais vous le lire parce que je le trouve très intéressant pour nous, très instructif aussi en même temps. « Nous croyons que les régulations qui gouvernent l'observation du sabbat sont des aspects de la loi qu'on dit cérémonielle. » Donc, il y avait une partie dans la loi qui était morale, mais il y a une partie aussi dans la loi qui est pour la cérémonie, pour le culte juif, et non pas justement morale. En tant que telles, elles ne sont plus nécessaires, puisqu'elles font partie des choses anciennes, tout comme les sacrifices, on comprend que ça fait plus partie de la façon qu'on s'approche de Dieu, la prêtrise lévitique, on oublie ça, et tout autre aspect de la loi de Moïse qui préfigurait Christ, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Messie. Une fois que le Messie est là, on n'a plus besoin des choses. Autrement dit, on n'a plus besoin de Jean-Baptiste, là, non plus. Alors, toutes les choses de la loi qui étaient là en attente que le Messie vienne, une fois que le Messie est là, bien, on oublie les autres affaires. Ça, c'était pas permanent, autrement dit, ces choses-là. Alors, voici les raisons pourquoi nous prenons une telle position. Il dit ceci, en Colossiens 2, 16 et 17, Paul réfère explicitement au sabbat comme étant l'ombre de Christ, pour lesquels nous ne sommes plus liés étant donné que Christ est venu. C'est très clair ici qu'il a en vue le sabbat hebdomadaire. La phrase « une fête, une nouvelle lune ou les sabbats » fait référence au jour saint, ce qui en hébreu est les mo'adim de l'Éternel, du calendrier juif, qui sont les fêtes annuelles, les fêtes mensuelles et les fêtes hebdomadaires. Et ici, il y a des versets comme 1 Chronique 23-31, 2 Chroniques 2-4, 2 Chroniques 31-3, Ézéchiel 45-17, Osée 2-11. Si Paul faisait seulement référence aux fêtes cérémonielles spéciales de repos, pourquoi aurait-il alors utilisé le mot « sabbat » Alors ça, c'est un argument concernant ceux qui croient que c'est encore possible ou c'est encore obligatoire de célébrer le sabbat. Il avait déjà mentionné les fêtes cérémonielles en parlant de fêtes et de nouvelles lunes. Donc, il n'aurait pas mentionné le mot « sabbat » ici. Le sabbat était un signe pour Israël de l'ancienne alliance mosaïque. Exode 31, 16, 17, Ézéchiel 20, 12 et Néhémie 9, 14. Étant donné que nous sommes sous la nouvelle alliance, comme on voit dans Hébreux 8, nous ne sommes plus sous l'obligation d'observer ce signe de l'alliance mosaïque. Deuxièmement, le Nouveau Testament n'ordonne jamais aux chrétiens d'observer le sabbat. En fait, c'est le seul commandement qui n'est pas réitéré dans le Nouveau Testament, ce qui est quand même assez important. Troisièmement, dans notre seule fenêtre ouverte sur le culte d'adoration de l'Église, dans le Nouveau Testament, nous voyons l'Église se réunir le premier jour de la semaine et non pas le jour du sabbat, acte 20, verset 7. Quatrièmement, il n'y a aucun endroit dans l'Ancien Testament où Dieu demande aux nations d'observer le sabbat, ou encore qu'elle ait été condamnée pour l'avoir violée. Ce silence serait une chose très étrange si, en fait, l'observation du sabbat était désignée à être un principe moral éternel. Comprenez-vous l'argument ici? Contrairement à « tu ne tueras pas », alors Dieu tient toutes les nations, pas juste Israël, par rapport à ça que c'est péché. Mais par rapport au sabbat, jamais on voit que Dieu demandait aux nations d'observer le sabbat, que s'ils n'observaient pas le sabbat, ils péchaient contre l'Éternel. Alors ça, c'est l'aspect que c'est justement pas un principe moral. Cinquièmement, il n'y a aucune preuve dans la Bible que quelqu'un a observé le sabbat avant l'époque de Moïse, ni aucun commandement de son observation avant que la loi soit donnée sur le mont Sinaï, ce qui veut dire que c'était vraiment enchâssé dans la charte des droits et libertés de la nation d'Israël. Six, quand les apôtres se sont rencontrés au concile de Jérusalem, c'est ça qui est très important, acte 15, parce que là, ils allaient décider qu'est-ce qu'on impose aux non-juifs et qu'est-ce qu'on n'impose pas. Ils n'ont pas imposé l'observation du sabbat aux croyants qui sont sortis du milieu non-juif. Donc, si ça avait été quelque chose que Dieu avait voulu qu'ils observent, naturellement, ils l'auraient inclus. Septièmement, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, a mis en garde les non-juifs à propos de bien des péchés mais de ne pas observer le sabbat n'a jamais été l'un d'eux. Huitièmement, en Galates 4, 10 et 11, Paul reprend les Galatiens d'avoir cru que Dieu leur demandait d'observer certaines fêtes ou jours spéciaux, incluant le sabbat. Alors, Paul, il les reprend ici par rapport à cela. Donc, ça, c'est important aussi. En Romains 14, 5, Paul défend à ceux qui observent le sabbat, ceux-ci sont sans aucun doute des chrétiens d'origine juive, de condamner ceux qui ne l'observent pas, c'est-à-dire les chrétiens qui sont d'origine non-juive. Donc, ici, Paul il dit, si vous voulez l'observer, vous n'avez pas le droit, par contre, de condamner ceux qui ne le font pas. Dixièmement, ce que je pense qui est aussi très important, parce que ça, c'est les premiers chrétiens, après les apôtres, qu'on appelle les pères de l'Église, d'Ignace à Augustin, tous ceux-là qui sont apparus dans cette période ont enseigné que le sabbat de l'Ancien Testament a été aboli et que le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, était la journée où les chrétiens se rassemblaient pour adorer Dieu, contrairement justement à ce que certains affirment, que le culte d'adoration le dimanche n'a été institué que seulement au 4e siècle après Jésus-Christ, ce qui est faux, parce que les pères de l'Église, dès le premier siècle et suivant après cela, ont toujours dit que le sabbat était chose du passé, que le dimanche maintenant était la journée où les chrétiens se rassemblaient ensemble. Maintenant, un point très important, et je termine avec cela, dimanche n'a pas remplacé le samedi comme le jour officiel du sabbat. Autrement dit, le dimanche n'est pas le substitut du samedi pour les Juifs. Ce n'est pas la même dynamique. C'est plutôt que le jour du Seigneur est un temps où les chrétiens se rassemblent pour commémorer sa résurrection, laquelle a eu lieu le premier jour de la semaine. Chaque jour du chrétien est un jour de repos du sabbat. Et dans Hébreu, c'est bien situé. Puisque nous avons terminé notre ouvrage spirituel, autrement dit, ce n'est pas par les œuvres, et que nous sommes entrés dans le repos du salut que le Seigneur a obtenu pour nous par la grâce. Hébreu 4, 9 à 11. Même si nous suivons encore l'exemple de désigner une journée de la semaine comme celle où le peuple de Dieu se réunit pour adorer, nous ne la considérons pas comme étant le sabbat. Jésus est maître du sabbat. Dans la suite du texte, on voit au verset 7 à 12 que Jésus est maître de la maladie et des esprits impurs. Au verset 13 à 19, on voit que Jésus est maître de la sélection de ses apôtres. Et au verset 20, 21, on voit que Jésus est maître de son existence. On va terminer ici dans la prière. Je vais vous inviter à vous lever, si vous le voulez bien. J'aimerais prier ensemble. Alors, j'aimerais vous inviter à courber vos têtes avec moi. On va prendre quelques minutes de réflexion. On va se placer devant notre Sauveur, celui qui est le seul Maître. J'aimerais ça, pendant qu'on est ici, qu'on se place justement aux pieds de Jésus. Est-ce que, Seigneur Jésus, tu es le seul maître à bord dans ma vie? Seigneur Jésus, est-ce que je suis pris dans le conservatisme religieux, évangélique? Est-ce que je crois, Seigneur, que c'est en observant des règles que je vais avoir ta faveur, que je vais être accepté par toi, que je vais être à la hauteur? Est-ce que ma vie chrétienne, Seigneur, dépend de moi, de mes efforts, de tout ce que je suis capable d'accomplir? Ou est-ce que, Seigneur, je suis en train de me reposer en toi parce que j'ai compris que tu avais tout fait en mourant sur la croix? En donnant ta vie, non seulement tu as pris mes péchés, mais tu as enlevé toute barrière. Et tu as enlevé ce système basé sur des œuvres. Seigneur, toi, tu vois mon cœur ce matin. Est-ce que tu es le maître de ma vie? Es-tu le maître de mes projets, de mon avenir? Est-ce que tu es le maître de ma santé? Est-ce que tu es le maître de ma famille? Es-tu le maître de mon plan de carrière, Seigneur Jésus? Est-ce que tu es le maître de mon éternité? Est-ce que mon cœur est libre parce qu'il se repose en toi et qu'il goûte à ton amour et à ta grâce? Est-ce que tu peux venir vers moi, Seigneur Jésus? Pour que ma relation avec toi soit basée non pas sur la performance, mais sur ta grâce. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as tout accompli à la croix, de ce que tu m'invites aujourd'hui à me laisser envahir par ton amour. Et goûter pleinement à ta grâce et à cette liberté qu'il y a en toi. Puisses-tu, Seigneur, me faire goûter à ce que ta parole dit sur ce que tu allais accomplir lorsque je viendrai à toi. Ouvre mon cœur, Seigneur Jésus, pour que mes yeux puissent te voir et que mon cœur puisse saisir tout ce que tu as à lui offrir. Merci Seigneur, en ton nom, pour ta gloire. Amen.